journal, Sébastien Berriot.
Bonsoir. Dans ce journal, la bataille d'Alep qui continue en Syrie, une véritable guerre d'usure. La rébellion a depuis ce week-end repris le contrôle des quartiers est de la ville. La Russie, de son côté, propose une trêve humanitaire de 3 heures tous les jours, une mesure jugée insuffisante par les Nations Unies. En Allemagne, le gouvernement tire les conséquences des attaques de cet été et des failles constatées dans la lutte antiterroriste. Le ministère de l'Intérieur annonce des facilités pour extrader les étrangers considérés comme dangereux. Correspondance à Berlin de Nathalie Versieux. Et puis l'État français qui réclame la fermeture des dizaines de commerces et de restaurants installés illégalement dans la jungle de Calais. La justice rendra sa décision vendredi. Reportage à Calais de Camille Labrousse. En Syrie, la ville d'Alep, toujours au centre des préoccupations des associations humanitaires. La population de la grande ville du nord est prise au piège de la bataille que se livrent le régime syrien et la rébellion. 14 personnes ont encore été tuées ce mercredi. Les deux parties reprennent tour à tour du terrain. Ce week-end, les rebelles ont notamment repris le dessus dans les quartiers est de la ville que l'armée syrienne détenait. Les forces de Bachar el-Assad se sont fait surprendre alors que leur présence était considérée comme acquise dans ces secteurs. Analyse sur ce point du chercheur Fabrice Balanche.
L'armée syrienne savait qu'il se préparait quelque chose dans cette zone, d'autant plus que c'est une zone qui est peu construite, plus difficile à défendre que les quartiers qui se trouvent plus au nord. Alors, est-ce qu'il y a une négligence du commandement de l'armée syrienne? Est-ce que pour justement couper la route du Castello au nord, elle a été obligée de dégarnir les défenses d'Alep, notamment le flanc sud-ouest? Ce sont des questions. Mais il faut dire surtout que les rebelles ont bénéficié d'une aide exceptionnelle de la part de ces bailleurs de fonds habituels, Qatar, Arabie Saoudite et Turquie. Il y a un très bon article dans le Financial Times qui montre que depuis des mois, des camions d'armes sont acheminés en Syrie pour préparer cette offensive. Le front al-Nosra a mobilisé près de 10 000 combattants, et puis des combattants entre guillemets d'élite, des Ouïghours qui sont prêts à aller jusqu'au suicide, et c'est d'ailleurs ça qui a fait la différence. Il y a eu l'explosion d'une bombe dans un tunnel qui a désorganisé l'armée syrienne à Ramousse. Donc tous ces facteurs ont fait que ils ont réussi à ouvrir une brèche, mais ça ne peut être que provisoire. Si les rebelles veulent rentrer dans Alep Ouest, ils vont devoir affronter des milices de quartier qui tiennent à défendre leur territoire, donc ça sera beaucoup plus difficile que d'avancer dans la zone de Ramousse. À terme, je ne pense pas que les rebelles puissent prendre la totalité d'Alep, à moins d'un bouleversement géopolitique. Pour l'instant, ce n'est pas possible.
Le chercheur Fabrice Balanche qui répondait aux questions de Valérie Krova. Et cet après-midi, l'armée russe, elle a annoncé la suspension des frappes tous les jours pendant 3 heures pour permettre la livraison de l'aide humanitaire. Une décision insuffisante, a répondu l'ONU. En Libye, la progression des forces fidèles au gouvernement d'Union nationale dans la ville de Sirte, le fief de l'organisation de l'État islamique. Ces forces ont pris le contrôle cet après-midi du centre de commandement de l'EI dans la ville. Elles s'étaient auparavant emparées de l'université et de l'hôpital de Sirte. Par ailleurs, ce chiffre donné par les États-Unis, selon Washington, 45 000 combattants du groupe État islamique ont été tués en Irak et en Syrie, et ce depuis le début des bombardements de la coalition internationale il y a 2 ans. En Allemagne, la réponse du gouvernement après les 2 attaques terroristes qui ont touché le pays au mois de juillet, le ministre de l'Intérieur va présenter demain une série de mesures pour renforcer la lutte antiterroriste. Il s'agit notamment de faciliter les expulsions de ressortissants étrangers qui présenteraient un danger pour l'Allemagne. Le gouvernement allemand tire ainsi les conséquences des failles du système constatées après les dernières attaques. À Berlin, les précisions de Nathalie Versieux.
Virage à droite pour le gouvernement Merkel. Le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, présentera jeudi 2 mesures sécuritaires phares qui pourraient provoquer une polémique en Allemagne. L'expulsion accélérée de réfugiés présentant un danger pour la sécurité publique et l'assouplissement du secret médical pour que les médecins puissent informer à temps les autorités de crimes planifiés par leurs patients. Mais c'est un virage bien plus radical encore que souhaiterait prendre le ministre et avec lui la CDU, le parti chrétien chrétien démocrate d'Angela Merkel menacé par le parti populiste AfD dans les sondages. Les responsables sécuritaires de la CDU s'apprêteraient, selon la presse allemande, à signer une déclaration aux allures de programme électoral à un an des prochaines législatives, réclamant déchéance de nationalité, interdiction du voile intégral, surveillance du financement des mosquées, expulsion des imams haineux, recrutement de 15 000 policiers d'ici 2020 et une remise en cause de la double nationalité, une réforme phare du gouvernement Schröder. Autant de mesures qui risquent de provoquer une vaste polémique dans un pays jusqu'à présent plutôt laxiste.
L'état d'alerte déclenché en début de soirée à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem après des alertes à la bombe dans deux avions de ligne. Les appareils ont finalement atterri sans encombre donc à l'aéroport de Bruxelles. Et puis la question de la Crimée à l'origine d'une nouvelle montée de tension entre la Russie et l'Ukraine. Moscou affirme avoir déjoué en Crimée des attentats terroristes. Les services secrets russes accusent l'Ukraine. Kiev a aussitôt démenti, évoquant une provocation de la Russie. Vladimir Poutine, lui, a qualifié dans la soirée cette nouvelle d'alarmante. Selon le président russe, l'Ukraine est en train de passer à la terreur. Le principal avocat qui défend les victimes de la Dépakine réclame aujourd'hui la mise en place au plus vite d'un mécanisme d'indemnisation. Une demande qui fait suite aux informations révélées ce matin par le Canard enchaîné. Entre 2007 et 2014, plus de 10 000 femmes enceintes se sont vues prescrire ce médicament anti-épileptique, alors qu'à cette époque, les risques de malformation pour les enfants à naître étaient déjà connus. Des chiffres contenus dans une étude de l'agence du médicament. Florence Turm, au vu de ces risques, pourquoi la Dépakine, de son vrai nom le valproate de sodium, n'a pas été interdit comme ça se fait pour d'autres médicaments ?
Eh bien, tout simplement parce que cette molécule est incontournable pour traiter certains patients. La Dépakine, c'est l'anti-épileptique qui soigne tous les types d'épilepsie. Alors, à défaut d'interdire le médicament, l'agence européenne a rendu en 2014 un arbitrage qui s'applique à tous les pays de l'Union. Le valproate de sodium ne doit plus être prescrit aux filles et aux femmes en âge de procréer, ni aux femmes enceintes, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux alternatives médicamenteuses. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament a ainsi élaboré de nouvelles conditions de délivrance. En primo-prescription, la Dépakine ne peut être donnée que par un spécialiste. La patiente doit signer un protocole de soins qui l'informe précisément des risques encourus. Et au bout de la chaîne, le pharmacien lui-même ne peut délivrer le médicament en l'absence de ce protocole d'accord. Il existe aussi un étiquetage spécial des boîtes renfermant le produit, carré rouge, à l'intérieur duquel est écrit « Dépakine plus grossesse égale risque ». L'association qui représente les familles voudrait aller plus loin encore avec un pictogramme comme ceux que l'on trouve sur les bouteilles d'alcool, une femme enceinte de profil barrée d'une croix. Mais l'APESA elle-même ne demande pas l'interdiction du valproate de sodium. C'est bien la perte de temps dans l'information qu'elle dénonce et toutes les situations individuelles dramatiques que cette absence d'information a engendrées.
La préfecture du Pas-de-Calais s'est lancée dans une nouvelle bataille sur la jungle de Calais. L'État veut voir disparaître des dizaines de restaurants et de commerces qui sont installés dans le camp. Les lieux sont jugés illégaux et insalubres. Une procédure judiciaire est en cours. Le tribunal administratif de Lille, saisi par l'État, rendra sa décision vendredi. Les associations qui viennent en aide aux migrants, elles, ne cachent pas leur inquiétude, estimant que les 70 restaurants et commerces sont aujourd'hui vitaux pour la survie des réfugiés. À Calais, reportage de Camille Labrousse.
D'après la préfecture, la situation de ces commerces est catastrophique. Ils cumulent des problèmes d'hygiène et des risques pour la sécurité. Pour Étienne Desplanques, le directeur de cabinet de la préfète du Pas-de-Calais, seules les associations doivent nourrir les migrants.
D'abord, on a toujours répondu aux besoins en nourriture. On a un opérateur, la Vie Active, qui fait un travail formidable, qui aujourd'hui, dans des conditions maintenant quasi industrialisées, distribue près de 2 repas à tous les migrants.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas à tous les migrants.
À tous les migrants qui le demandent.
Et c'est là que commence la bataille des chiffres. Pour la préfecture, les migrants sont actuellement 4 500, 7 000 d'après les associations. Il est donc impossible qu'une seule d'entre elles gère tous les repas toute seule. L'État affirme que le temps d'attente actuel pour les repas du midi est de 8 minutes, plusieurs heures, répondent les associations. Elles craignent, à l'image de Mary Jones, que les files d'attente toujours plus longues fassent exploser les tensions.
Les dernières grandes rixes, c'était à cause des files d'attente. Allonger la journée pour charger le téléphone, pour aller chercher un repas, pour prendre sa douche. Je pense qu'il ne faut qu'une personne qui passe devant et puis tout le monde devient fou.
Au-delà du nombre de repas fournis par ces restaurants, parfois gratuitement, les associations défendent leur rôle de lien social, des lieux où se rassemblent les communautés.
Les prévisions Météo France pour la journée de jeudi, ensoleillées sur la majeure partie du pays, sauf dans le nord-ouest où les nuages seront nombreux. Température maximale demain après-midi, 18 degrés à Cherbourg, 27 degrés à Perpignan.